vivant en tout cas qui parle à notre cœur. Hein. Dieu est le potier, nous sommes l'argile, il fait ce qu'il veut avec nous, hein, il veut nous transformer. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es là. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu fidèle, et tu nous changes, Seigneur, tu nous transformes, tu nous remplis d'espérance, tu libères nos cœurs, et nous voulons vraiment te louer, Seigneur, parce que nous savons en qui nous croyons, tu es un Dieu tellement merveilleux, Seigneur. Merci Jésus pour ton amour extraordinaire. Nous allons chanter « Je loue ton nom éternel », après quoi, et nous allons prendre un moment de louange, où chacun va pouvoir louer le Seigneur pour ce qu'il est.
Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté, quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie. De la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel.
Louons le Seigneur, frère, sur quelques instants. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Oui, Seigneur. Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci pour ta présence, ta bonne main sur nous tous ici, Seigneur. Merci, Seigneur, de bénir la parole qui nous sera annoncée, Seigneur, sur cet enseignement. Merci, Jésus. Voulons nous préparer, Seigneur, et réaliser que tu as tout prévu dans les temps de la fin, Seigneur. Tout est sous contrôle. Rien ne t'échappe. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce, ta bénédiction. Merci, Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous avons, en quelques annonces, nous avons bien sûr notre culte à 10h. Bonjour à tous, bonsoir plutôt à tous les frères et les sœurs qui viennent d'autres communautés. Que chacun peut se sentir à l'aise dans la maison du Seigneur ici à Bordilers. Alors, nous avons comme orateur, bien sûr, le pasteur Michael Williams de Bordilers. Donc, l'étude sur l'Apocalypse, tous les quatrièmes vendredis de chaque mois, sauf au mois de décembre, hein, et au mois de juillet, mais ça s'est passé. La onzième étude sur l'Apocalypse sera le quatrième vendredi du mois de janvier, on vous le rappellera. Si vous n'êtes pas dans le listing des adresses mail que nous possédons, donnez-nous cette adresse pour qu'on puisse nous communiquer les dates. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vais tout de suite laisser la place au pasteur Mike Williams. Encore grand merci, mon frère, de venir. Voilà.
Merci, frère. Bonsoir, frères et sœurs. Oh, vous êtes là quand même. Vous êtes dans le noir. Voilà. Je suis content d'être avec vous de nouveau, d'avoir le privilège de partager la parole de Dieu. Et nous allons tout de suite ouvrir la Bible au chapitre 13 de l'Apocalypse. Une petite introduction avant de lire une partie du texte. Ce chapitre 13 raconte la puissance politique du diable et sa dictature sur toute la terre. Certains pensent que il va gouverner la terre en s'assurant de la présidence des Nations Unies, qu'il transformera dans un gouvernement mondial suite à l'enlèvement de l'Église. C'est possible. La Bible ne donne pas de précision. Bien sûr, après l'enlèvement de l'Église, il va y avoir besoin de faire quelque chose. Le monde va se trouver en chaos. Vous allez me dire, c'est pas nouveau. Le monde se trouve déjà en chaos. C'est vrai. Mais le chaos va être beaucoup plus grand, n'est-ce pas? Si tous les chrétiens sont partis, n'est-ce pas? Il va falloir prendre des décisions. Et je pense qu'il est bien possible que l'Antichrist, à ce moment-là, se révèle en disant, voici, moi, je suis la solution. Nous avons besoin maintenant, pour faire face à tous ces problèmes mondiaux, nous avons besoin d'un gouvernement mondial. Et moi, je serai le président. Il va être un dictateur terrible, cruel. Et son gouvernement va se donner des pouvoirs exceptionnels. Et nous savons, et le monde ne le saura pas tout de suite, mais le monde finira par le savoir quand même, mais nous savons déjà que ces pouvoirs exceptionnels et l'autorité de l'Antichrist viendront en ligne directe de Satan lui-même. Ce sera un gouvernement diabolique. L'Apocalypse parle du dragon, c'est le diable. Qui sait qu'il n'a que peu de temps. Quand la grande tribulation commence, il sait que ses jours sont limités. Il le sait déjà. Mais entre savoir et croire, il y a une différence. Nous pouvons savoir des choses que nous ne voulons pas croire, n'est-ce pas? Moi, je sais que le mois prochain, je vais aller au dentiste. Mais je veux pas le croire, n'est-ce pas? Alors, j'espère de l'oublier. Mais la date s'approche. Et le diable sait que ses jours sont comptés. Et ça veut dire que, puisqu'il n'a que peu de temps, il doit agir vite. C'est pour cela que tout ce qu'il veut encore faire et accomplir, ça va s'intensifier, ça va s'accentuer. Parce que sinon, il n'y arrivera pas. Et tout ce qui fait, tout ce qu'il fait, tout ce qui va suivre ce soir, ça a un caractère blasphématoire, n'est-ce pas? Le diable est très peu inventeur, mais par contre, il est très beaucoup imitateur. Il est expert dans l'imitation. Et il essaye, dans tout ce qu'il fait, d'imiter Dieu. Nous en avons parlé la fois passée, et j'en reparlerai. Au fil de l'histoire, il a essayé d'imiter beaucoup de choses de Dieu. Ce qu'il n'a pas encore essayé, mais qu'il essayera à la fin des temps, c'est d'imiter la Sainte Trinité. Et alors, dans ce chapitre, nous verrons à côté de lui deux bêtes. Une bête qui sort de la mer, qui monte de la mer, et une bête qui monte de la terre. Avec l'Antichrist, cela forme une trinité satanique, diabolique, l'imitation de la trinité divine. Et la vision de ce chapitre 13 montre surtout ces deux bêtes, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre, chacune avec des caractéristiques distinctes, mais aussi communes. Dans le sens que les deux bêtes reçoivent leur pouvoir, leur puissance de cette même source satanique commune. Et elles se ressemblent. Elles se soutiennent. Elles s'entraident dans l'accomplissement du même but, du même objet. Lisons maintenant la première partie du chapitre 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donnait sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Analysons un peu ce texte. Une bête, le mot en grec indique une bête, pas un petit chat, mais un monstre. Une bête sauvage, une bête cruelle. Et cette bête monte de la mer. Nous avons déjà vu la mer synonyme de la foule des nations. Donc il s'agit d'un personnage qui monte de la foule des nations. Et une bête qui a 10 cornes et 7 têtes. On a déjà commenté la signification des cornes et des têtes. Et il nous a dit qu'il est comme le dragon. On dit en français, je pense, tel père, tel fils. N'est-ce pas? Et cette bête qui monte de la mer est la deuxième personne de la Trinité diabolique, c'est-à-dire l'imitation de Jésus-Christ. Et dans une tentative de ressemblance, il est dit, je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Elle sort de la mer, donc d'entre les nations. Et les eaux que tu as vues sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Il y a déjà là une grande différence entre Jésus et cette imitation diabolique de Jésus. Jésus ne vient pas d'entre les nations. Il vient du ciel. C'est pas la même chose. Je sais pas si je vous ai déjà raconté. Un jour, je me promenais en centre-ville à Anvers, et je vois à l'autre côté de la rue commerçante, un monsieur qui distribue des traités. Je vous ai déjà raconté ça? Non. Bon, je vois un monsieur qui distribue des traités. Je suis pasteur, donc un peu déformé professionnellement, n'est-ce pas? Je traverse la rue, et je lui demande un de ses traités. Il me donne, et je continue mon chemin en lisant le traité. Le Christ est venu, il vit parmi nous. Moi, je me dis, ça c'est intéressant. Alors je fais demi-tour et je vais parler au monsieur qui distribue les traités. Je dis, le Christ est venu, il vit parmi nous. Ah oui, Kimi, c'est vrai. Puis vous le connaissez. Ah oui, très bien. Ah, j'ai dit, ça c'est bien. Il vit parmi nous. C'est où ça qu'il vit? Ben, en Hollande. Il vit en Hollande. Oui. Je peux vous donner son adresse si vous voulez. En Hollande. Je dis, une question. Comment est-ce qu'il est arrivé en Hollande? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je dis, ben, vous dites qu'il habite en Hollande, mais comment est-ce qu'il est venu en Hollande? Ben, il dit, il a toujours été en Hollande, il est né en Hollande. Je dis, monsieur, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Je dis, votre Christ à vous, c'est pas le bon. C'est pas le vrai. Parce que quand Jésus revient, j'ai rien contre les Hollandais, hein, mais il vient pas en Hollande. Il vient pas à Bois-de-Villers. J'ai rien contre vous, mais c'est pas ici. Le vrai Christ revient sur les montagnes des Oliviers, la montagne des Oliviers à Jérusalem. Et il ne sera pas né, il est déjà né, il ne renaît pas. Nous sommes chrétiens, nous ne croyons pas à la réincarnation, n'est-ce pas? Et cette bête vient de parmi les nations, même pas du ciel. C'est pas le vrai, c'est une imitation. Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Le diable blasphème, n'est-ce pas? Dans son arrogance, il s'approprie des noms, des caractéristiques qui n'appartiennent qu'au Seigneur Jésus seul. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Si vous connaissez le livre de Daniel, ça vous fait penser à la vision de Daniel, prophète Daniel. Lui, il voit 4 bêtes qui montent de la mer. Le premier était semblable à un lion. Second, semblable à un ours. Un autre, semblable à un léopard. Et un quatrième, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Les mêmes caractéristiques que la bête que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse. Les 4 bêtes que Daniel a vues correspondent à 4 empires qui se sont succédés au temps de l'Ancien Testament. Le lion qui symbolise Babylone, l'ours qui symbolise le Médo-Perse, le léopard qui symbolise la Grèce et l'animal terrible qui symbolise l'Empire romain. Par exemple, le léopard, symbolique de vitesse et de soif de sang. Et on pense à l'Empire grec sous Alexandre le Grand, qui a vaincu tout le monde connu à une vitesse folle et avec beaucoup d'effusion de sang. Comme l'Antichrist vaincra la terre en très peu de temps et avec beaucoup d'effusion de sang. Et puis nous lisons ceci. Et si le fait que la bête imite Jésus n'est déjà pas assez étonnant, ce que nous lisons maintenant l'est peut-être encore plus. Toute la terre, était dans l'admiration derrière la bête. On n'adore pas Jésus, on adore la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Presque les mêmes paroles qu'on emploie pour adorer Dieu. Dans le désert, le peuple d'Israël dit, qui est comme toi parmi les dieux au Éternel? Presque les mêmes paroles. qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Parole reprise par le prophète Michée, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de son héritage, il ne garde pas sa colère à toujours, il prend plaisir à la miséricorde. L'Antichrist blasphème. Le peuple l'adore. Qui est comme toi? Mais c'est pas Dieu. C'est le diable qui s'adore. Et à l'Antichrist, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Le diable a son pire, n'est-ce pas? Daniel dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut. Selon la loi juive, le blasphème est un péché terrible. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. C'est pas un petit péché, blasphémer contre Dieu. Toute l'assemblée le lapidera, qu'il soit étranger ou indigène, donc pas seulement juif qui blasphémerait Dieu, mais aussi un païen. Il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Et ce n'est pas seulement un péché grave, le blasphème dans l'Ancien Testament. Paul écrit, parlant de blasphémateurs, de ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Mais dans le temps de la fin, la bête et tous ceux qui l'adorent vont blasphémer Dieu. Ça va plus loin. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Pendant la grande tribulation, l'Antichrist va opposer, persécuter, tuer les saints dans tous les pays du monde. Qui sont ces saints? C'est pas nous. Parce que nous, on est déjà enlevés. Et c'est les saints, juifs et païens, qui viendront au Seigneur pendant la grande tribulation. Alors que nous, nous ne payons pas notre salut de notre propre sang, beaucoup d'eux le feront. Ceux qui se convertissent au Christ pendant la grande tribulation seront quand même une minorité seulement. Parce que nous avons lu, tous les habitants de la terre adoreront la bête. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Il faut un peu expliquer cela. Le livre de vie, on en parlera plus largement. Mais c'est le livre dans lequel est marqué, j'espère, mon nom et vos noms. Quand est-ce que nos noms ont été écrits dans ce livre de vie? Certains disent, ah oui, c'est marqué dès la fondation du monde. C'est pas ça que ça veut dire, pas exactement. Pas dans le sens que quand Dieu a établi ce livre de vie, il a écrit dedans le nom de Monsieur A et Madame B, mais pas le nom de Monsieur X et Madame Y. Comme si c'est Dieu qui prédestinerait qui va au ciel, oui ou non? Non, c'est le livre de vie qui existe depuis la fondation du monde. Et le nom n'est pas écrit dès la fondation du monde, c'est le livre qui existe dès la fondation du monde. Les noms sont écrits à partir du moment où ces personnes-là viennent au Seigneur. Le jour que vous et moi, nous nous sommes convertis au Seigneur, nés de nouveau, Jésus a écrit notre nom dans le livre de vie. Il doit être déjà presque rempli, je pense, hein, parce que Jésus revient vite. Mais tous les habitants de la terre vont adorer la bête.
l'idolâtrie, l'adoration de l'homme. Le monde aime un Dieu visible, n'est-ce pas? Surtout un Dieu qui crée lui-même, qui sait contrôler lui-même. Aujourd'hui, nous avons une toute autre idée de Dieu qu'au temps de la Bible. Au temps de la Bible, on jugeait, il fallait juger quel est le vrai Dieu. Il y avait énormément de dieux. Les Romains avaient des centaines, voire des milliers de dieux. Chaque peuple avait ses dieux. Chaque ville avait ses dieux. Mais en Israël, il n'y avait qu'un seul. Et les Juifs étaient mépris à cause de ce qu'on considérait être la pauvreté de leur religion. Je vous explique. Mettons par exemple que je suis juif, n'est-ce pas? Et je prends un café avec un Romain. Nous sommes là sur une terrasse un soir et un Romain qui vient d'arriver en Israël. Et il s'intéresse à tout. Ah, il me dit, vous êtes juif? Oui, je suis juif. Vous croyez en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Eh ben, vous pouvez me parler un peu de votre religion, ça m'intéresse, j'ai des questions. Ah oh oui, je veux bien. Eh bien, commençons d'abord. Vous avez combien de dieux, vous, les Juifs?
Un seul?
Qu'est-ce que c'est que ça comme religion? Nous, les Romains, nous avons des centaines de dieux. Et vous n'avez qu'un seul? Enfin, soit. Il est comment votre Dieu? Comment est-ce que je dois me le présenter? Vous avez une photo? Non, dans ce temps-là, il n'y avait pas de photo. Peinture? Non, on n'a pas de peinture. Statue? Non, nous, on n'a pas de statue. Ça, c'est de l'idolâtrie. Donc, vous ne savez pas comment est votre Dieu? Non, nous ne savons pas. Mais enfin, nous les Romains, chaque Dieu, il a des statues dans des temples, n'est-ce pas? Nous savons comment il est. Donc, un seul Dieu, et vous savez même pas comment il est. Bon, passons à une autre chose. Son nom. Quel est son nom? Ah, nous ne savons pas. Nous l'appelons éternel, Dieu. Mais son nom, non, nous ne savons pas. Comprenez que le Romain n'est pas tellement impressionné par la religion juive. En plus, votre Dieu à vous, qu'est-ce qu'il vous a donné? Un tout petit bout de terrain, hein, 30 000 kilomètres carrés, dont 60% est désertique. Vous n'avez presque pas de source d'eau. Vous n'avez pas de pétrole, vous n'avez pas d'or, vous n'avez pas d'argent. Votre Dieu vous aime pas trop, hein. Regardez ce que nos dieux romains nous ont donné à nous. Tout le monde est à nous. Vous comprenez? C'est comme ça leur idée des dieux. Nous, aujourd'hui, nous croyons dans un Dieu, pas un Dieu puissant, mais un Dieu tout puissant. Mais nous jugeons Dieu avec d'autres paramètres qu'à l'époque. Et maintenant, les gens dans la grande tribulation vont voir le pouvoir de l'Antichrist. Il règne sur tout le monde, sur la planète entière. Ah, ça doit être lui alors. Et Dieu au ciel, est-ce qu'il existe? Et si oui, où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? On l'adore pas. Mais nous savons que l'adoration des dieux, des faux dieux, ce n'est que rien d'autre que l'idolâtrie, n'est-ce pas? Mais les dieux visibles ont toujours attiré l'homme. Parce que l'homme préfère des dieux qu'il invente lui-même à l'éternel. Parce que les dieux qu'il invente lui-même, il peut les contrôler. C'est lui qui décide, c'est l'homme qui décide, pas le dieu, l'éternel sur lequel il n'exerce aucun contrôle. Quelle est la différence entre l'adoration d'un faux Dieu, une idole, et l'adoration du vrai Dieu? L'adoration, la vraie adoration du vrai Dieu n'est pas la même chose que l'adoration d'un faux Dieu. L'adoration d'un faux Dieu est toujours égoïste. J'adore ce Dieu-là dans l'espoir qu'il me donnera quelque chose. C'est dans mon intérêt que je l'adore. Tandis que l'adoration du vrai Dieu ne tourne pas autour de moi, mais autour de lui, n'est-ce pas? Et il y a même quelque chose que beaucoup de chrétiens doivent comprendre et peut-être apprendre. C'est que nous n'adorons pas Dieu en premier lieu pour ce qu'il fait. Nous adorons Dieu en premier lieu pour qui il est, n'est-ce pas? Ça, c'est un niveau d'adoration beaucoup plus élevé. Un niveau d'adoration que le monde ne connaît pas et ne connaîtra jamais, et que toutes les autres religions du monde ne connaissent pas. Pourquoi est-ce que les bouddhistes et les hindous apportent des offrandes à leur Dieu? C'est pas par amour de leur Dieu, mais c'est dans l'espoir d'être récompensés, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que nous adorons Dieu? J'espère. C'est parce que nous l'aimons. S'il nous récompense, formidable. Mais même s'il ne nous récompense pas, nous l'adorons. C'est pas seulement dans le Nouveau Testament qu'on trouve ça. Vous rappelez l'histoire des trois jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, qui refusent de se prosterner devant l'idole de Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar les appelle, leur donne une deuxième chance, et leur menace, s'ils ne se prosternent pas, la fournaise ardente. Et les jeunes répondent, « Nous croyons que notre Dieu est capable de nous sauver, de nous délivrer. Mais même s'il ne le fait pas, que le roi sache, nous n'adorerons pas tes dieux. » Ça, c'est la vraie adoration. Ça, je m'excuse, je suis pas ici pour prêcher, mais c'est vrai quand même. Le but de l'adoration de l'Antichrist est égoïste. Et seuls les saints, ceux qui se sont convertis à Jésus, refusent d'adorer l'Antichrist. Ils sont même appelés saints pendant la grande tribulation. Qu'est-ce que ça veut dire, saint? Pas quelqu'un qui se promène avec une auréole, n'est-ce pas? Un saint, c'est quelqu'un qui est mis à part. Mis à part du monde, mis à part pour le Seigneur. Ceux dont le nom n'a pas été écrit. Donc, ceux qui adorent l'Antichrist, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. Et ce livre de vie existe, et ça c'est rassurant, dès la fondation du monde. Il y a des gens qui disent, ah, c'est seulement à partir de l'Église, parce que les Juifs n'iront pas au ciel. C'est pas ce que vous pensez. Moi, je pense rencontrer au ciel Abraham, et, n'est-ce pas, Isaac, Jacob, Moïse, j'espère. Un jour, j'aimerais bien quand même boire un café avec Moïse. Ou avec Élie. Ça doit être bien, ça doit être intéressant. Ils ont des choses à raconter, vous croyez pas? Et on aurait toute l'éternité. On obtient son inscription dans le livre de vie en acceptant Jésus personnellement comme sauveur. Prophète Daniel en parle. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Jésus reprend ses paroles en Matthieu 24. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Jésus dit à ses disciples, « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. L'apôtre Paul fait mention de Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. L'épître aux Hébreux, vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés inscrits
dans les cieux, nous sommes déjà inscrits, n'est-ce pas? Et à la fin du livre de l'Apocalypse, nous lirons, il n'entrera dans la Nouvelle Jérusalem que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Est-ce que un nom qui est écrit dans le livre de vie peut être effacé? Il y a des prédicateurs qui disent, une fois que vous êtes dans le livre de vie, vous pouvez faire ce que vous voulez après. Ça n'a pas d'importance. Une fois que vous êtes dedans, au ciel, il n'y a pas de gomme. C'est pas ce que dit la Bible. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Il n'y a que Dieu qui peut nous effacer. Le pasteur ne peut pas le faire. Hein? Mais Jésus peut nous effacer. David chante, que les ennemis soient effacés du livre de vie, qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Comment être inscrit dans le livre de vie, accepter Jésus comme sauveur? Comment rester inscrit dans le livre de vie, persévérer jusqu'à la mort? D'accord? Et puis nous lisons ceci, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Nous avons déjà lu ça quelque part dans le livre de l'Apocalypse, non? Où est-ce qu'on a déjà lu ça? Eh bien, dans les lettres, oui, dans les lettres de cette Église, chaque fois que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Et à ce moment-là, nous avons expliqué ce que ça voulait dire pour un juif, faire très attention, c'est très important. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. J'espère que ces barbares au Moyen-Orient entendent ça. Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Le prophète Jérémie dit, ainsi parle l'Éternel, à la mort ceux qui sont pour la mort. Donc c'est pas une inscription dans le livre de vie, et puis faire ce qu'on veut. Non. Il faut suivre le Seigneur, obéir à ses commandements. À la mort, ceux qui sont pour la mort. À l'épée, ceux qui sont pour l'épée. À la famine, ceux qui sont pour la famine. À la captivité, ceux qui sont pour la captivité. À la mort, ceux qui sont pour la mort. Ce ne sont pas des versets qui enseignent la prédestination. On n'est pas prédestiné à tuer, n'est-ce pas? On entend parfois des pécheurs qui disent, ah, je peux pas en faire autrement. Hein? C'est pas ma faute, je ne peux pas faire autrement. C'est toujours un mensonge. Ce n'est pas qu'il ne peut pas faire autrement, c'est qu'il ne veut pas faire autrement. N'excusons pas le péché. On n'est pas programmé à faire du mal. C'est un choix. Propre volonté. Moïse dit, vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. Connaissez l'histoire du grand roi David. Un jour, il se promène sur le balcon de son palais et il voit la belle Bathsheba dans son bain. Vous connaissez l'histoire? Il envoie un messager chercher Bathsheba et couche avec elle. Péché de l'adultère. David pense que personne ne l'a vu. Personne ne le sait. Il se tait. Dieu l'a vu. Dieu l'a vu. Et son péché est découvert. Heureusement pour lui, il confesse. Et il reçoit le pardon. Vous péchez contre l'Éternel, sachez. Tôt ou tard, le péché vous atteindra. Et Jésus dit, ce n'est pas donc seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau. Jésus dit, tous ceux qui prendront l'épée, périront par l'épée. Nous ne pouvons pas pécher sans conséquence. Deuxième bête. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblables à celles de l'agneau. Voyez encore une imitation. Mais il parle comme un dragon.
Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Faut le placer d'abord dans son contexte. La deuxième bête qui monte de la terre, et donc, dont la nature est charnelle, parce qu'elle monte de la terre, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité. L'imitation, une très pauvre imitation, une tentative à imitation du Saint-Esprit. Et comme son père, le dragon, cette bête, qui est le faux prophète, est un maître de l'imitation, tout comme Satan. Et comme le Saint-Esprit a ressuscité Jésus de la mort, comme le Saint-Esprit a donné à Jésus la vie, ou redonné à Jésus la vie, le faux prophète anime l'image de l'autre bête. Et la Bible en parle. Quand l'Antichrist met son idole dans le temple, l'abomination de la désolation, à la moitié de la grande tribulation, il oblige à tous les habitants de la terre de l'adorer. Et l'adoration est obligatoire, sous peine de mort. Ça, c'est quand même autre chose que la religion chrétienne, non? Il y a des religions qui sont obligatoires, hein? L'islam, il y a beaucoup qui sont obligés. Nous, nous ne sommes pas obligés de venir à l'église, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas ici ce soir parce que vous craignez d'être décapité si vous restez à la maison. J'espère. Je pense que votre pasteur n'est quand même pas si mauvais que ça. Non, si nous sommes ici, c'est par choix. C'est par volonté propre, n'est-ce pas? Mais dans une fausse religion, c'est la peur qui règne. Et ce sont des punitions qui déterminent. Il y a un contraste clair entre le ministère du vrai Saint-Esprit et celui du faux Saint-Esprit. Le Saint-Esprit encourage l'adoration de Dieu, qui reste volontaire. Le faux prophète exige et oblige l'adoration de l'Antichrist. Paul l'appelle l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Jésus dit, concernant le Saint-Esprit, le Consolateur, « Il me glorifiera ». La bête qui monte de la terre glorifie l'Antichrist. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Vous avez remarqué que Satan essaye toujours d'imiter. Quand Moïse jette le verge par terre, qui devient un serpent, les magiciens du Pharaon font la même chose. Quand Moïse change l'eau en sang, les magiciens font la même chose. Élie a appelé le feu du ciel. Maintenant, le faux prophète fait la même chose. Mais quand Élie l'a fait, le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, absorba l'eau qui était dans le fossé. Le jour de Pentecôte, des langues semblables à du feu apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Mais quand le faux prophète le fait, il n'y a pas de puissance qui vient du ciel, ou de pouvoir qui vient de l'enfer. C'est pas la même chose. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Vous savez, les prodiges de Dieu ne sont jamais seulement un spectacle, n'est-ce pas? Spectaculaire, oui. Mais Dieu n'a pas besoin de faire des spectacles. Si Dieu nous donne des prodiges, c'est toujours des signes. Ici, ce sont des prodiges pour impressionner les gens à adorer le diable. Et vous avez remarqué que les gens, malheureusement, ils aiment tellement des prodiges qu'ils sont prêts à suivre n'importe qui, n'importe où, s'il y a des prodiges. Malheureusement, ça entre même dans l'Église parfois. Tout ce qui s'appelle prodige ne vient pas nécessairement de Dieu, n'est-ce pas? Il nous faut discerner. Et comment discernons? Si ce n'est pas dans ce livre, c'est suspect. Vous êtes d'accord? Parce que Satan est capable de faire des prodiges aussi. Et nous ne voulons pas de lui. Nous ne voulons que du Seigneur. La bête qui monte de la terre n'est pas la même que l'Esprit. L'Esprit de Dieu, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Mais le diable ne conduit jamais dans la vérité, il conduit dans le mensonge. Il séduisait les habitants de la terre par ses prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Disons aux habitants de la terre, pas d'adorer Dieu, mais de faire une chose qui pour Dieu est tellement abominable, c'est-à-dire de créer une idole. Vous rappelez l'histoire encore, Moïse qui monte sur la montagne de Sinaï, et il ne vient de partir, et le peuple dit à Aaron, il nous faut une idole. Le monde aime adorer quelque chose de visible. Il séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Disons aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Nous n'avons pas d'image de Jésus dans notre Église. Je suis content de voir une croix vide. N'est-ce pas? Parce que ça, c'est la vérité. Le Saint-Esprit ne nous encourage pas d'adorer le diable. Des images. La Bible dit, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Tandis que la bête scelle ceux qui adorent le diable. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Encore une fois, Satan qui essaye d'imiter Dieu. Parce que Dieu dit, celui qui vaincra, j'écrirai sur lui aussi une marque. Mais c'est pas la marque du diable, mais le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Ce n'est pas une nouvelle idée. Dieu marque Caïn déjà pour empêcher qu'il ne soit tué. Dans la grande tribulation, les martyrs du Seigneur seront donc marqués. Et les anges qui versent les jugements de la grande tribulation reçoivent l'ordre, ne faites pas point mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Il leur fut dit de ne point faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Les 144 000 Juifs que nous avons vus au chapitre 7 et que nous reverrons probablement au chapitre 14, Jean dit, je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Donc, la pratique de marquer était bien connue. L'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Prophète Ézéchiel, l'Éternel lui dit, et pas Ézéchiel, mais un chérubin, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et comme nous l'avons déjà vu, nous aussi, nous porterons une marque éternellement. Celui qui vaincra, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, etc. La marque de la bête, alors qu'est-ce que ça va être? Dimanche passé, j'étais dans une église, et pendant le café après le culte, une église d'embourinage, une sœur vient me trouver un peu troublée. Elle me parle de tout ce qui se passe à Bruxelles et à Paris et tous ces événements, et elle dit, est-ce que c'est la fin des temps? Et ça vient plus près, de plus en plus près. Nous sommes déjà dans la fin du temps, mais pas déjà dans la grande tribulation. Oui, mais j'ai peur qu'elle dit de la marque de la bête. Mes sœurs, vous n'avez pas besoin d'avoir peur, parce que la marque de la bête, c'est pas aujourd'hui. C'est l'Antichrist qui l'imposera, mais pas à l'Église, parce que l'Église sera déjà partie. Donc, n'ayons pas peur, frères et sœurs, de la marque de la bête. Je dis ça d'abord. OK? On va pas le recevoir. On avait une sœur chez nous dans l'église d'Anvers. Un jour, elle a vu que j'ai une carte de crédit. Ouf! Pasteur! Vous avez une carte de crédit? Je dis oui. Chrétien ne peut pas avoir une carte de crédit. Non, non. Marque de la bête. Et ça, ce sera difficile. D'abord, je ne le porte pas sur mon front, ni sur ma main, n'est-ce pas, dans mon portefeuille. Mais deuxièmement, la marque de la bête, c'est la bête qui va l'imposer. Et la bête n'est pas encore là. Mais qu'est-ce que ce sera? C'est important de le savoir quand même, parce que accepter la marque de la bête amène la colère de Dieu et exclut de son royaume éternel. Soyons clairs, c'est ce que dit la Bible. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Donc, il faut savoir ce que c'est, pas parce que nous risquons de devoir le recevoir, mais pour pouvoir avertir des autres. Parce que ceux qui vivront dans la grande tribulation, il est essentiel qu'ils ne l'acceptent pas. Parce que s'ils l'acceptent, ils passeront l'éternité dans les temps de feu et de soufre. Qu'est-ce que c'est? Jean dit, c'est ici la sagesse. Que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Qui est intelligent alors? Qui a de la sagesse? Vous avez une église de gens qui sont pas intelligents, frère. Il n'y a personne qui lève la main. Permettez-moi de vous expliquer. C'est une idée juive de nouveau. Vous avez vos lunettes juives avec? Il y a 2000 ans? Ce qu'il faut lire ceci, pour comprendre, il faut savoir ce qu'un juif, il y a 2000 ans, aurait compris. Et lui, il aurait compris tout de suite ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, on ne sait pas. Et puisqu'on ne sait pas, vous pouvez lire 100 livres, sans idée farfelue. Différente. Ce que c'est que cette marque de la bête. La Bible dit, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Vous êtes fort en mathématiques? Parce qu'il y a un calcul à faire. Vous êtes d'accord? C'est marqué calcul. Donc, retenons ça, il s'agit de calculer quelque chose. Puis, le nombre de la bête. Donc, c'est un nombre, un chiffre. Puis, c'est un nombre d'hommes. Donc, il ne s'agit pas de quelque chose de vague et d'inconnu au ciel. Non, il s'agit de quelque chose de l'homme. Et le nombre est 666. Bon, il y a beaucoup d'idées différentes. Comme la plupart de vous savent, j'ai le privilège d'aller de temps en temps en Israël, déjà depuis 25 ans. Et juste avant d'y aller la première fois, j'avais justement lu un livre sur l'Apocalypse. Et dans ce livre, quand il parlait du chiffre 666, il disait que tous les taxis à Jérusalem, leur plaque minéralogique termine avec 666. Et comme je suis parti en Israël quelques jours après, j'ai regardé tous les taxis à Jérusalem. Je n'ai pas vu un seul 666. Je disais, ça c'est étrange. Il y avait même dans ce livre une photo d'un taxi à Jérusalem avec une plaque qui terminait avec 666. Mais moi j'ai pas vu un seul. Tous les taxis n'avaient pas 666. Alors, étant curieux de nature, j'ai demandé à quelqu'un, et il me dit, ah, c'est pas possible que ça termine en 666. Ça aurait été possible il y a longtemps, quand nos plaques étaient différentes que maintenant. Mais comme en Belgique, au moment donné, on n'avait plus de chiffres. Alors on a changé la formule des plaques. Et maintenant, les plaques ne terminent pas avec 3 chiffres, mais avec 2 seulement. Donc ça ne peut pas terminer avec 666. Ce frère qui a écrit ce livre, dommage, mais c'est pas vrai ce qu'il a écrit. Et sans autre théorie sur 666, faisons attention. Parce que, comme je vous ai dit, pour un juif, à l'époque, c'était très clair ce que ça voulait dire. Je vais essayer de vous expliquer. Au temps de la Bible, on n'avait pas encore inventé des chiffres. Les chiffres n'ont été inventés que quelques siècles après. On avait déjà des alphabets, et presque chaque langue avait son propre alphabet, mais on n'avait pas inventé des chiffres. Alors, quand, au temps de la Bible, on voulait écrire des chiffres, on devait se servir de lettres de l'alphabet. Le système que nous connaissons le mieux, c'est le système romain. Le système romain était assez sophistiqué, en ce sens que on employait seulement quelques lettres de l'alphabet. Si un Romain voulait écrire 1, il employait la lettre I. Si un Romain voulait écrire la lettre 5, quelle lettre est-ce qu'il employait? Un V. S'il voulait écrire un 10, c'était un X. D'accord? Donc, il avait une lettre I pour un 1, une lettre 5 pour une lettre V pour un 5. S'il voulait écrire 6, il écrivait V-V-I. 7, V-I-I. D'accord? Vous voyez le système? Il n'y avait que quelques lettres romaines qu'on employait. Mais Jean n'écrit pas en latin avec l'alphabet romain, il écrit en grec. Et en grec, d'ailleurs l'hébreu c'est le même, chaque lettre a une valeur numérique. Alors ça devient plus compliqué. Chaque lettre de l'alphabet a une valeur en chiffres. Et pourquoi est-ce que ça devient plus compliqué? Chez les Romains, il n'y a que 7 lettres. Donc, il y a une façon limitée d'écrire des chiffres, des numéros. Mais si chaque lettre de l'alphabet a une valeur numérique, vous pouvez choisir, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez écrire un chiffre quelconque, il suffit d'écrire des lettres dont la valeur numérique, le total des valeurs numériques de ces lettres, n'est-ce pas, égale le montant que vous voulez représenter. Donc, ce que le nom de l'Antichrist, les valeurs numériques, les valeurs en chiffres des lettres de son nom vont totaliser 666. Mais ça veut dire qu'il y a énormément de possibilités. N'est-ce pas? Vous me suivez jusqu'à présent? Je sais que c'est un peu compliqué. Mais je vais essayer de prendre un exemple. Moi, je m'appelle Williams, de mon nom de famille. OK? Je prends le W, en grec, ça fait 400. I, 10. Deux fois L, 30, 30. Encore 10. A, c'est 1. M, c'est 40. S, c'est 6. Si je fais le total, j'arrive à 527. Ouf, je suis pas l'Antichrist. C'est pas moi. D'accord? Donc, vous prenez votre nom. C'est dangereux ce que je vais vous dire. Vous prenez votre nom. Vous marquez à côté de chaque lettre la valeur en chiffres et vous faites le total. Et si vous arrivez à 666, venez vite voir le pasteur. Vous avez besoin de la prière. J'enseignais cela à l'école biblique il y a des années de ça. Et la semaine après, un étudiant vient me trouver, il a dit, j'ai fait le calcul, c'est le directeur de l'école biblique. Je dis, jeune homme, si j'étais de vous, je me taiserais. Je le dirais pas. Parce qu'il est clair que pour arriver à 666, il y a beaucoup et énormément de combinaisons de lettres, n'est-ce pas? Henry Kissinger, vous vous rappelez le ministre de, comment il appelle, affaires étrangères de l'Amérique d'antan. Kissinger, il paraît que ça peut arriver à 666. Mais vous pouvez arriver à ça avec beaucoup de combinaisons différentes. Donc, inutile d'essayer de le découvrir d'avance. Mais quand l'Antichrist se manifestera, et on connaîtra son nom, on additionnera les valeurs numériques des lettres de son nom, et ça totalisera 666. Donc, ça n'a rien à voir avec une plaque de voiture ou de taxi à Jérusalem. N'est-ce pas? Et nous ne le saurons pas, parce que l'Antichrist ne se manifestera que quand nous ne sommes plus là. Alors, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Comment est-ce que cette marque va être affichée? Pendant des siècles et des siècles, on a supposé ou proposé que ce serait par un tatouage. Mais aujourd'hui, la technologie développe et a développé déjà des autres moyens. On n'a plus besoin de tatouage. Aujourd'hui, la société Motorola, grande société américaine, propose déjà une toute petite puce, grand comme un grain de riz, le même genre de choses qu'on injecte déjà dans les oreilles des chiens, hein, identification. Et nous avons de telles puces aujourd'hui, nous aussi, dans la carte de crédit, il y a une puce, n'est-ce pas? Dans nos cartes d'identité, cartes de banque. Des avantages, naturellement, de tout ça, c'est qu'on peut nous les voler. Ou on peut les perdre. Est-ce que ce ne serait pas mieux, simplement de l'injecter, Comme ça, vous pouvez pas le perdre. On peut pas nous le voler. Alors, à la caisse du supermarché, on doit pas chercher où j'ai mis ma carte. Oh, je l'ai laissée à la maison. On me l'a volée. Non, il suffit de montrer sa main. Ou même juste de passer avec son front. C'est logique, non? C'est pas logique. Et le monde va l'avaler. Parce que c'est logique. Probablement au début que l'injection de ces puces sera volontaire, mais à la fin, non. Si vous ne l'acceptez pas, n'allez pas au supermarché, parce que vous ne pourrez pas acheter. N'allez pas au médecin ou à l'hôpital, vous ne pourrez pas. Vous savez que ces puces, ils ont en mémoire assez pour contenir tout notre CV, nos détails de compte en banque, carte d'identité, carte 6, tout ça ne sera plus nécessaire. On peut tout remplacer par la petite puce. Et la petite puce contient une petite batterie qui est rechargée par la chaleur du corps humain. Et les scientifiques ont découvert qu'il y a deux endroits dans le corps humain préférables pour recharger la petite batterie. La main droite et le front. On demande parfois, en tant que chrétien, est-ce qu'on doit accepter alors cette puce? Il n'y en aurait pas question, parce qu'on sera déjà plus là. Donc, n'ayons pas peur. Mais ceux qui n'acceptent pas le Seigneur et qui vivent dans la grande tribulation, avertissons-les, n'est-ce pas? Prévenons-les de ne pas accepter cette puce. La technologie n'existait pas il y a 10 ans, mais elle existe déjà maintenant. J'ai lu dernièrement qu'en Australie, il y a déjà une ville où il y a un projet pilote, c'est volontaire, que les gens peuvent déjà se faire injecter de cette puce, et déjà des milliers qui le font. C'est pas la marque de la bête, pas encore, mais c'est le précurseur, non? Ok, donc ne vous sentez pas coupable d'avoir une carte de crédit dans votre portefeuille. C'est pas ça la marque de la bête. Mais toutes ces technologies pointent dans la direction, n'est-ce pas? Je ne sais pas si on est arrivé à la fin du chapitre 13, on s'arrête là ou on commence le chapitre 14. Qu'est-ce que vous pensez, frère? C'est déjà 8h15. Peut-être mieux d'arrêter maintenant parce que c'est encore 2 mois avant de... Sinon, on va avoir oublié peut-être ce qu'on a commencé. Parce que si je commence le chapitre 14 maintenant, je ne saurais donner qu'une introduction et puis... Ça fait rien? Ok. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci.
Merci, pasteur. C'est vraiment une étude formidable sur l'Apocalypse. On avance. Donc, lisons pour la fois prochaine à partir du chapitre 14, donc l'Apocalypse, et relisons peut-être tous les chapitres et bien sûr une étude. On a 2 mois pour le faire, hein, je crois que c'est important. Voilà, alors nous allons prier et remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous a apporté ce soir. Nous voulons remercier, courber le front devant le Seigneur, cette étude magnifique. Plusieurs puissent aussi prier et remercier Dieu. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as encore donnée ce soir. Merci pour ton serviteur qui l'a si bien apporté. Merci Seigneur que nous puissions avoir les yeux attentifs, que soyons des personnes qui discernent, qui apprennent à discerner. Merci Seigneur parce que le temps est court et l'ennemi va faire des ravages. Nous ne serons plus là dans la grande tribulation. C'est un réconfort pour nous de savoir que nous serons auprès de toi. Et c'est vrai que nous voulons avertir tous ceux qui risquent de passer par là. Seigneur, merci parce que ceux qui ont la foi en toi, il n'y a plus aucune, pour eux, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Tu as un plan d'amour pour tes enfants et nous voudrions que le monde entier puisse entendre ta parole, puisse y croire, y adhérer et la vivre vraiment. Merci Seigneur. Merci Jésus. Si deux ou trois veulent prier, ils le fassent maintenant.